Allez, on va accueillir comme il se doit Michel Favret, l'association Constellation et Galaxie. Michel, bonjour.
Bonjour Joël.
Alors, le mois dernier, on fait un petit peu décalé, hein, parce que on se voit tous les premiers, le dernier mercredi du mois. Et là, rappelez-nous, hein, donc l'Islande, ça s'est bien passé?
Ça s'est bien placé, puisqu'on a pu observer des aurores boréales de nuit claire. Il fait pas beau tous les jours là-bas, donc on n'a pas pu les voir aussi souvent qu'on aurait voulu, mais c'était quand même un beau voyage.
Magnifique t-shirt, hein, d'ailleurs, Michel, hein, un souvenir, Aurora Borealis. Donc là, on verra également sur Facebook, hein, c'est histoire de faire un petit lien. Allez, alors, bien remis néanmoins de ce voyage, parce que vous êtes revenu seulement lundi. Hein.
Dimanche. Mais un peu fatigué.
Avec
parce
le décalage, certainement un petit peu décalage horaire.
La dernière nuit d'observation des aurores, c'était samedi, et j'ai dû dormir à peu près 3 heures avant d'aller prendre mon avion.
Voilà, vous avez vu, on s'inquiète de votre santé, mais vous êtes là, vous nous l'aviez promis, donc on a décalé, hein, pour les raisons que l'on vient d'invoquer, votre présence pour cette sixième chronique astro. Alors, je ne sais pas, si soit un petit sommaire ou...
Je pense qu'on va passer directement au thème que j'ai choisi ce mois-ci, c'est le soleil, en raison justement des aurores, hein, puisqu'on va voir qu'il y a un rapport direct avec le soleil, mais surtout parce qu'on aura eu un événement, une observation que tout le monde pourra faire probablement, le 20 mars, on aura une éclipse partielle de soleil visible partout en France. Alors le soleil, pour commencer, je préférerais reparler des échelles, parce qu'on aborde un objet astronomique qui est beaucoup, beaucoup plus grand que la Terre. Le Soleil, son diamètre, c'est à peu près 109 fois celui de la Terre, ce qui n'est pas très parlant, parce qu'en réalité, il faut raisonner en volume, et en volume, le Soleil, c'est 1 300 000 fois la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme dans l'espace. Alors, en astronomie, c'est toujours difficile de se représenter les grandes tailles ou les grandes distances. Aussi, j'essaie de transposer avec des images qui peuvent parler aux auditeurs. Si on prend, par exemple, le Soleil, en faisant une maquette, avec un ballon de basket, pour représenter le Soleil, un ballon de basket, ça fait à peu près 24 cm de diamètre. À cette échelle-là, la Terre aurait seulement 2 mm de diamètre. Alors, pour donner une idée, ce sera à peu près la taille d'un grain de poivre ou une toute petite perle qu'on peut utiliser pour faire des petits bracelets. Une façon de le voir différente, si vos auditeurs ont la curiosité, ils pourront retrouver facilement sur Internet des images du transit de Vénus. C'est un phénomène qui est assez rare quand Vénus passe entre nous et le Soleil. Donc on voit comme un petit disque noir passer devant le Soleil. Et bien si vos auditeurs observent ces photos qu'on trouve sur Internet, il faut se dire que la Terre par rapport au Soleil, c'est 3 fois plus petit que le point noir de Vénus qu'on voit sur le Soleil. Et vous verrez, c'est pas grand-chose. Alors 3 fois plus petit, tout simplement parce que Vénus a la même taille de la Terre, mais lorsqu'elle passe entre nous et le Soleil, elle est 3 fois plus près de nous. Donc on voit son image 3 fois plus grande que celle du Soleil à l'échelle. Non seulement le Soleil est un objet très grand, mais on est très loin de lui. On a du mal à se rendre compte des distances. En astronomie, la distance de la Terre au Soleil, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Si on garde notre échelle du ballon de basket, ça représenterait une distance de 25 mètres, où il faudrait mettre le petit grain de poivre pour représenter la Terre. Alors 25 mètres, c'est facile, c'est la moitié de la largeur d'un terrain de foot. Donc on pourrait imaginer, hein, j'espère que vos auditeurs peuvent se le représenter, mettre le ballon de basket sur le point central de remise en jeu, ce serait le Soleil, et pour représenter la Terre, donc un petit grain de poivre qu'on mettrait sur la ligne de touche, juste en face du rond central. Une autre façon de voir les choses, si on imagine partir vers le Soleil en voiture, hein, on sait bien tous que c'est impossible, mais en roulant à 130 km/h comme on peut le faire sur autoroute en France, sans jamais s'arrêter, jamais, on roule sans s'arrêter, même pas pour refaire le plein, il faudrait 132 ans avant d'atteindre le Soleil. Donc c'est vraiment une distance énorme. Alors le Soleil, qu'est-ce que c'est ? C'est du gaz, principalement de l'hydrogène, à peu près 92%, un peu d'hélium, 8%, et un petit peu de tout. Il y a tous les éléments présents sur le Soleil, aussi bien du carbone, de l'oxygène, du fer ou de l'or, mais en toute petite quantité. C'est à peine 1/1000 de sa masse. Comme il est fait de gaz, il a une densité qui est bien inférieure à celle de la Terre, qui est faite de roches et de fer. Sa masse est à peu près 333 000 fois celle de la Terre. C'est énorme. Puisque ça représente 99,98% de tout le système solaire. Ça veut dire que les planètes, les comètes, les astéroïdes, tout ce qui tourne autour du Soleil, ça représente quand même pas grand-chose dans l'ensemble. Avec cette énorme masse, il exerce une forte attraction par la gravité, ce qui permet la révolution des planètes autour du Soleil, mais pas seulement. On le sait pas forcément, mais il joue un rôle aussi dans les marées, hein, qu'on attribue souvent, plus souvent à la Lune. On sait que, comme les deux astres jouent dans l'effet des marées, l'ampleur des marées est différente suivant la position relative du Soleil et de la Lune dans le ciel par rapport à la Terre, qui font que les effets des deux s'additionnent ou se contrarient. Et c'est quand la Terre, le Soleil, la Lune sont à peu près alignés, c'est-à-dire à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune, que l'ampleur des marées est la plus forte, alors que quand ça forme un angle droit, au premier ou au dernier quartier, les marées sont d'une ampleur bien plus faible. Comme tout le monde peut le constater, le Soleil brille dans le ciel, on peut se demander d'où vient cette lumière, cette énergie du Soleil, comme de toutes les étoiles qu'on peut voir scintiller dans le ciel la nuit. Alors déjà c'est tout simple, le Soleil c'est simplement une étoile comme les autres, et elle est même plutôt petite, parce que la plupart des étoiles qu'on peut voir dans le ciel à l'œil nu sont en fait plus grandes que le Soleil. Si on voit le Soleil si gros et les autres étoiles comme des tout petits points, c'est tout simplement un problème de distance. On est bien plus proche du Soleil. Pour donner une idée de la distance énorme qui nous sépare des autres étoiles, si on reprend toujours l'échelle de notre ballon de basket pour représenter le Soleil ou une étoile, la plus proche étoile, donc un autre ballon de basket, serait à peu près à 6800 km de nous, c'est-à-dire du côté de Chicago par rapport à Bordeaux. Les distances entre les étoiles sont énormes par rapport à leur taille. On s'est longtemps demandé d'où venait cette énergie du Soleil et des planètes. On a pensé bien sûr à du feu au départ. J'ai souvent dans le planétarium des élèves qui me parlent d'une boule de feu pour le Soleil, mais c'est pas ça du tout. Aucune combustion chimique, que ce soit du bois, du carbone ou n'importe quoi d'autre, ne peut expliquer la durée du Soleil. On sait en analysant les météorites, qui sont un peu comme des fossiles du système solaire, que le Soleil brille déjà depuis plus de 4 milliards d'années. La seule explication qu'on peut avoir à cette production d'une si grande quantité d'énergie, ce sont les réactions nucléaires, dans lesquelles la matière est directement transformée en énergie, avec la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. Donc ça peut produire des énergies considérables. À la surface du Soleil, la température est déjà très élevée pour nous, c'est de l'ordre de 6000 degrés, mais au cœur, elle est vraiment énorme, de l'ordre de 15 millions de degrés. Et la densité aussi est très très forte. Et dans ces conditions, des réactions qu'on a bien du mal à reproduire sur Terre peuvent se dérouler, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Par une série de réactions compliquées, les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, en dégageant une énorme quantité d'énergie, donc de lumière et de chaleur. À la proximité de la surface du Soleil, cette énergie est transmise par convection, c'est-à-dire c'est un petit peu comme une bouilloire d'eau qu'on fait bouillir. L'eau chaude remonte vers la surface et on a même des bulles qui éclatent, et ça se produit aussi sur le Soleil. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué parce que le champ magnétique très puissant du Soleil oblige les particules éjectées à former des espèces de boucles et à retomber sur le Soleil. On appelle ça des protubérances. On peut les observer, mais il faut des filtres spéciaux pour pouvoir faire ça. Dans certains cas, la protubérance, si vous voulez, le jaillissement est tellement violent que des particules sont éjectées dans l'espace sans retomber sur le Soleil, et parfois elles partent en direction de la Terre. Elles arrivent à peu près 2 ou 3 jours plus tard, à proximité de la Terre, et comme la Terre a aussi un champ magnétique assez puissant, elles sont déviées par le champ magnétique de la Terre, qui fait un petit peu comme un bouclier pour nous protéger de ces effets. Mais une petite quantité de ces particules arrive à pénétrer dans la haute atmosphère, et ça se passe au niveau des pôles, parce qu'à cet endroit-là, le champ magnétique forme un peu comme des entonnoirs, si on peut dire. Donc ces particules rentrent dans la haute atmosphère, elles rentrent en collision avec les gaz de l'atmosphère. Et c'est ça qui provoque l'émission de lumière, des lumières qui ondulent lentement au gré des mouvements de la haute atmosphère, et ce sont les aurores polaires, qu'on perçoit un peu comme des draperies verdâtres, parce que nos yeux sont plus sensibles à la couleur verte en basse lumière. Mais sur des photons, on peut se rendre compte qu'il y a aussi d'autres couleurs, du rouge, du mauve. Ça vient tout simplement du fait que les couleurs des lumières émises sont différentes suivant les gaz qui sont frappés par ces particules. Alors personnellement, je n'en ai jamais observé avant 2013. Je suis allé les voir d'abord en Norvège en octobre 2013 et j'ai voulu y retourner, d'où mon voyage la semaine dernière en Islande où j'ai eu la chance d'en voir, comme je vous l'ai dit, de nuit. Alors c'est vraiment un spectacle grandiose, on a du mal à l'imaginer quand on l'a jamais vu, parce que ça prend une grande partie du ciel, ça ne cesse de changer de forme, d'intensité, ça peut devenir très très lumineux. Pour donner une idée à vos auditeurs, samedi soir on pouvait les voir au-dessus de Reykjavik alors qu'on était en plein dans les éclairages et la pollution lumineuse de la ville. C'est-à-dire que si on pouvait en avoir au-dessus de Bordeaux, on pourrait les voir malgré tout l'éclairage de la ville. Alors sans aller aussi loin que les régions polaires pour voir des aurores, le Soleil nous fait de temps en temps d'autres spectacles. Comme la Lune, c'est une coïncidence un peu bizarre d'ailleurs, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil en diamètre, mais elle est aussi 400 fois plus près de la Terre. Ce qui fait que, vu de la Terre, les deux astres ont à peu près la même taille. Et quand la Lune passe devant le Soleil, elle le cache complètement, ce qui donne la possibilité de voir quelque chose de spectaculaire aussi, qui s'appelle la couronne solaire, et c'est ce qu'on appelle une éclipse totale de Soleil. Alors, il faut pas imaginer que ça se produit très très souvent, hein, pas à chaque fois que la Lune passe du côté du Soleil, parce que sinon on aurait une éclipse chaque mois. En fait, l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à la Terre, ce qui fait que la plupart du temps, la Lune passe soit plus haut dans le ciel, soit plus bas que le Soleil, et c'est tout simplement la nouvelle Lune, c'est-à-dire le jour où on voit pas la Lune dans le ciel, parce qu'elle est tournée avec le côté de l'ombre, le côté sombre, pas éclairé par le Soleil, en face de nous. C'est à peu près deux fois par an que la Lune passe pile devant le Soleil, et qu'une éclipse totale ou partielle peut se produire. Alors le 20 mars prochain, ce sera une éclipse totale. Sauf que pour la voir totale, il faut aller exactement à l'endroit où l'ombre de la Lune passe sur la Terre, et c'est une petite bande de 250 km de largeur à peu près. Le 20 mars, ce sera pas très facile, parce qu'il faudra aller du côté des îles Féroé ou du Spitzberg pour voir ça. Donc j'avais envisagé à un moment le voyage, mais j'ai renoncé. Par contre, dans une grande partie de l'Europe, et notamment en France, on verra une éclipse partielle, c'est-à-dire la Lune ne cachera pas entièrement le Soleil, mais partiellement. À Bordeaux, ce sera à peu près les trois quarts, donc ce sera déjà quelque chose d'assez impressionnant. Si on regarde un petit peu au niveau des horaires, donc le vendredi 20 mars, ça commencera vers 9h20, quand le limbe du Soleil est à peine touché par la Lune, hein, au début du phénomène. Puis la Lune grignote petit à petit toute la partie de Soleil qu'elle va cacher, donc trois quarts au maximum à peu près vers 10h25, et elle se retire ensuite lentement jusqu'à à peu près 11h30 quand le phénomène sera terminé pour la région de Bordeaux. Alors il n'y aura aucun problème pour l'observer, sauf si on a des nuages très très épais qui masquent complètement le disque solaire à notre vue.
Il faut prendre des précautions, hein.
Oui, alors l'observation des éclipses est dangereuse pour les yeux en raison de la très forte luminosité du soleil. On ne doit jamais regarder le soleil directement, même à l'œil nu, et encore moins pendant de longues minutes comme on peut le faire pendant une éclipse, puisqu'on est attiré, si je peux dire, l'œil est attiré par le spectacle. Il faut se munir de lunettes spéciales pour éclipse, hein. Ce sont pas du tout des lunettes de soleil, hein. C'est beaucoup plus opaque que ça. Je pense qu'on pourra mettre une photo d'ailleurs sur le site de Radio pour montrer à quoi elle ressemble. Elle laisse passer une toute petite portion de lumière et qui est sans danger pour les yeux. Sinon, si on n'observe pas avec les précautions voulues, on peut endommager sa rétine et c'est complètement irréversible. C'est bien pire en plus si on observe avec un instrument optique qui va concentrer la lumière du soleil. Donc on n'observe jamais le soleil avec une paire de jumelles, une lunette astronomique ou un télescope, parce que là on peut carrément devenir aveugle. Et le pire, c'est qu'on ne sent rien, parce que dans la rétine, il n'y a pas de détecteur de douleur au niveau nerveux, et la rétine est en train de brûler et on s'en rend pas compte, et on peut devenir complètement aveugle. Il n'y a que des astronomes avec des filtres très spéciaux qui peuvent observer le soleil avec des instruments optiques. Donc si on n'a pas de lunettes spéciales éclipse, hein, je pense qu'on en trouvera dans le commerce d'ici le 20 mars, elles sont distribuées, j'ai pu voir ça avec les revues d'astronomie par exemple, en jointe avec la revue. Il y a un système plus simple. C'est tout simplement de faire un trou dans une surface opaque, par exemple un carton, on fait un petit trou dedans, et on regarde l'image projetée par le trou. L'image projetée du soleil, par exemple, sur un mur, sur le sol, sur une feuille de papier, disons une surface claire, quoi, que l'image puisse apparaître quand même clairement, et on verrait la forme du soleil mangée, si je peux dire, par la Lune.
Voilà, attention, donc ne pas regarder à l'œil nu ni par les jumelles, hein. Voilà, c'est des rappels récurrents, mais ô combien importants.
Ah, c'est fondamental. À chaque fois qu'il y a des éclipses, c'est considéré comme un cas sanitaire, hein, même pour un pays comme la France. Le risque représente pour les yeux du public l'observation des éclipses.
Voilà, donc suivez les conseils et puis vous le rappelez, hein, dans certaines revues, donc on pourra avoir, ça se trouve, ça va être un coût dérisoire qui plus est, donc... Santé avant tout. Hein.
Voilà, il n'y a pas besoin prudent. En plus d'avoir chacun sa paire de lunettes, parce qu'on regarde pas en permanence l'éclipse. Oui. Ça, c'est un phénomène qui est très très lent, donc on le regarde de temps en temps. On peut très bien avoir une paire de lunettes pour, je sais pas, une dizaine de personnes, et on se la passe chacun son tour pour jeter un petit coup d'œil.
Allez, le ciel du mois, Michel.
Alors, on va faire court, hein, puisqu'avec l'actualité de l'éclipse, j'ai voulu axer plutôt sur le soleil. Pour ce qui est de la voûte céleste, des constellations, on en avait parlé largement le mois dernier. Je pense que le plus simple, c'est de renvoyer les auditeurs sur notre site web où ils trouveront les cartes, hein, permettant d'identifier les constellations. Donc, je rappelle un tout petit coup notre site, www.constellationsetgalaxies.org. On y trouve les informations sur le ciel du mois. Et bien sûr, pour ceux que ça pourrait intéresser, sur notre activité de planétarium, parce que je rappelle que même si c'est agréable de venir parler à votre micro, l'activité principale de l'association, ça reste un planétarium itinérant qui se rend surtout dans les établissements scolaires pour montrer le ciel et l'expliquer aux enfants. Si on regarde côté planète, comme pour le mois dernier, le mois de février, c'est encore Vénus le soir et Jupiter pendant pratiquement toute la nuit qui sont le plus facilement observables, on les reconnaît parce qu'elles sont bien bien plus lumineuses que toutes les étoiles qui sont autour, hein, on peut pas se tromper. Et de temps en temps, la Lune s'approche de ses planètes. Alors par exemple ce soir, mais je suis pas sûr qu'on aura un ciel bien clair pour le voir, elle sera pas très loin de Jupiter. Le jeudi 12, elle se rapproche de Saturne, mais ça, ce sera dans le ciel du matin. Le jeudi 19, il y aura un très très fin croissant, hein, puisque ce sera juste la veille de la nouvelle lune, donc de l'éclipse, qui sera pas loin de Mercure, là aussi le matin, dans les lumières de l'aube, pratiquement. Le samedi 21, elle sera près de Mars, dans les lueurs du couchant. Le 22, près de Vénus, là aussi le soir. Et à nouveau, elle sera près de Jupiter le lundi 30.
On a à peu près tout dit. Enfin, vous avez à peu près tout dit, Michel. Hein, c'est vous le spécialiste, bien sûr. Hein.
Voilà.
Moi, je suis le modeste Monsieur Loyal. Alors, on va peut-être, avant de se quitter, rappeler. Donc, prochaine chronique, là, on l'avait décalée hein, en raison de ce magnifique voyage islandais. Donc, on se voit à la fin du mois pour une chronique numéro 7. Et peut-être rappeler le site internet de votre association Constellations et Galaxies, même si d'aucuns maintenant le connaissent.
Hein. Bah, org. Et comme je l'avais dit le mois dernier, on peut nous écrire. En mettant peut-être en sujet chronique astro O2, si des auditeurs ont des questions à me poser ou des thèmes à suggérer, hein, puisqu'au fur et à mesure, c'est moi qui les choisis, mais ce serait peut-être intéressant que les auditeurs nous fassent part de leur intérêt pour certains phénomènes ou objets dans l'espace ou dans le ciel de manière plus générale.
Très bien. Mais Michel, à très bientôt. Là, je vous dis pas au mois prochain, mais à la fin du mois.
Voilà, dans un peu plus de 3 semaines, 4 semaines, on va dire, pratiquement.
Très bien, en tout cas merci à vous Michel Favre, Constellations et Galaxies d'être venu ici présenter cette 6e chronique astronomique.